Bienvenue au balado-diffusion de Église M. Votre opinion est importante pour nous, alors n'hésitez pas à nous laisser vos commentaires et suggestions à l'adresse suivante. info@commercialeglisem.com info@commercialeglisem.com
Le titre de la série, c'est « Généreux, point ». Généreux, point. Point à la ligne. Généreux, point. Et la question, la sous-question à ce titre-là, c'est « Pourquoi faire ?» Pourquoi faire? Et comme dirait notre invité la semaine dernière, David Chouinard, pour qu'est-ce faire? Pour qu'est-ce faire? Qu'est-ce faire? Pourquoi on devrait être généreux? Et quand j'ai commencé à travailler sur cette série-là, il y a 6-7 mois à peu près, j'avais commencé à regarder plusieurs affaires par rapport à la générosité, puis des angles différents sur lesquels on voit et on perçoit la générosité. Et une des choses que j'ai pu constater partout, c'est que en quelque part, les gens aimeraient pouvoir être reconnus comme du monde généreux, comme des personnes généreuses. Les gens en général aiment ou voudraient être reconnus pour des personnes généreuses. Et lorsque j'ai dit « OK, générosité », là, je dis « m'en mettre le titre ». Et là, je me suis dit « série sur généreux, point ». Et là, j'ai dit « OK, qu'est-ce qui vient dans la tête de tout le monde ?» Là, vous êtes ici ce matin, vous êtes en train d'écouter le message, et là, vous êtes « bon, on sait de quoi il va parler. Il va nous parler de l'argent puis de patente de même. Ça va être plate. Ça m'intéresse pas vraiment. Y a-tu quelque chose de meilleur qui aurait comme sujet pour mon avancement de vie chrétienne que généreux point ou des affaires d'argent? Je trouve ça plate. Ça m'intéresse pas. Et je me suis dit, c'est sûr. Je comprends le point. Est-ce qu'on pourrait fermer les movings, s'il vous plaît? Juste derrière. Juste pour réaliser quelque chose, c'est que notre point de vue ou notre réflexion est souvent basée sur une image ou une perception qu'on voudrait que les gens aient de nous. C'est-à-dire, comme je disais tantôt, « Ah, j'aimerais ça que les gens pensent que je suis généreux. » Donc, j'aimerais ça que les gens me voient comme quelqu'un de généreux. Et parce que, pour nous autres, l'antithèse ou le paradoxe ou le paradigme ou le contraire de la générosité, c'est gratine, hein? C'est ça qu'on... Êtes-vous avec moi? Tu sais, c'est pas vrai. Cheap, c'est ça. Cheap. Grincheux. Fait qu'on se dit, eh non, je veux pas être reconnu comme ça, donc je veux être reconnu pour généreux. Mais notre conception de la générosité est parfois biaisée par plein d'affaires dans notre background, dans notre vie. Et cette série-là, elle va du tout, mais ne pas du tout aller dans le sens que vous pensez ou que vous anticipez. Vous allez vraiment être surpris. Vraiment être surpris, mais surtout, le but, vous allez être rempli d'espoir. Rempli d'espoir et surtout, ça va vous donner une liberté. Vous allez être libéré de ça. Parce que souvent, ce genre de message-là ou de série-là apporte une espèce de culpabilité ou de condamnation, de « je suis pas assez généreux »,« ah, ben c'est sûr, on peut toujours faire mieux », tu sais, ce genre de réflexion-là, puis on se sent plutôt écrasé plus qu'encouragé. On a l'impression qu'on n'est pas assez bon, fait qu'on fait comme « ben c'est sûr, vu de même ». Il est certain qu'on ne peut pas enlever, puis on pourra jamais enlever, si le chapeau fait, on le met. Allô? Quand le chapeau, il fait, si vous voulez qu'on fasse, il fait. Fait qu'on le prend. Mais le but de la série, de ce que moi j'essaie de faire, vous, c'est vous donner cette liberté-là, une joie, une vie différente face à un sujet qui est souvent évité ou qu'on évite de parler. La générosité, parce que, en quelque part, on pense à argent. Puis argent, c'est... On parle pas de ça, c'est tabou. C'est comme on parle pas. Combien tu gagnes, c'est pas de tes affaires. Et combien je donne, c'est pas de tes affaires. Donc, il y a cette mentalité-là qui vient souvent se lier à la générosité ou au fait d'être généreux, puis qui vient comme un peu troubler notre regard, notre perception par rapport à être généreux ou la générosité. Et moi, je vais vous encourager aujourd'hui d'assister à cette série-là pour faire face à ce sujet-là dans notre vie et surtout dans notre relation avec Dieu. Le titre de mon message aujourd'hui, c'est au-delà des chiffres. On va aller au-delà des chiffres. Je vais commencer avec un passage dans 1 Timothée au 6e chapitre, le verset 9. Je commence avec ça qui dit, et voilà, on s'en vient. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation. Ils sont pris au piège par de nombreux désirs insensés et néfastes qui plongent les hommes dans la ruine et provoquent leur perte. souvent, quand on regarde ce type de texte-là, on se dit encore, ah ben oui, regarde, c'est une question de richesse, une question d'argent. OK, le texte qui est là, c'est ce qui est en train de parler l'apôtre Paul, c'est ceux qui ont une mauvaise perspective de l'argent ou une mauvaise vision de l'argent, c'est ce qui arrive, ça dérègle, ça vient dérégler nos sens lorsqu'on a une mauvaise perspective. Donc, on est pris au piège dans ces espèces de gouffres-là et comme ça dit dans le texte, on provoque une ruine ou une perte. Certainement, parfois, dans nos... Puis quand je dis notre relation avec finance, c'est qu'on se crée des problèmes financiers. J'ai un prof que j'ai eu pendant plusieurs années, Denis Morissette, peut-être certains le connaissent. J'ai eu un prof, et lui, il disait toujours dans ses cours de relations d'aide, il dit, vous savez, tous les problèmes de l'être humain sont relationnels. Puis il y a quelqu'un qui lève la main dans la classe, il dit, ben non, le problème d'argent. Il dit, oui, c'est ta relation avec l'argent qui a un problème avec. En fait... Ce qu'on comprend, puis c'est ce que Dieu essaie de dire depuis le début, c'est que le péché, ou ça a venu tout briser dans notre vie, et c'est venu briser toutes nos relations. Dans la dernière série, j'ai parlé de relations par rapport au travail. Mais c'est la même chose encore là. Notre relation par rapport, ou notre vision par rapport à l'argent ou aux richesses, est brisée à cause du péché et de cette notion-là qui vient tout défaire et twister la patente. Donc, mon rôle à moi, moi comme pasteur, moi là, mon rôle comme pasteur, c'est que je veux pas que vous ayez ces choses-là vous arrivent. Moi, mon rôle comme pasteur, c'est de ces choses-là ne vous arrivent pas. Donc, vous aider, et mon rôle consiste à vous aider à sortir ou éviter ces pièges-là dans votre vie. On compte, ça c'est le verset 9. Regardez bien le verset 10. Verset 10 dit ceci. « Car l'amour de l'argent est la racine de toutes sortes de maux. » Là, il est dans le même sens que je disais tantôt, c'est la mauvaise perspective de l'argent qui est la cause de plein de nos problèmes. Ouf! Vous cherchez un coupable dans votre vie? C'est pas l'argent. C'est votre perspective, votre vision, votre compréhension de l'argent et des richesses qui est un problème. C'est ça qui est brisé. Et cette relation-là fait qu'on voit l'argent comme l'appât qui réussit à régler bien des problèmes. C'est sûr que c'est toujours plus facile de pleurer une relation amoureuse qui s'arrête dans une Ferrari que dans une Lada. Je peux comprendre. Non, mais je peux comprendre l'idée. Pleure en allant en auto dans la Ferrari au lieu de ta Lada, c'est quand même un petit peu meilleur. Mais ça règle pas le problème. Ça ne solutionne pas le problème. Mais, et c'est pour ça qu'il dit, mais, car l'amour de l'argent est la racine de, et non pas, parce que souvent ça a été véhiculé, l'argent est la racine de tous les maux. C'est totalement faux. L'argent est une bonne chose. C'est extraordinaire, l'argent. C'est une bonne affaire. Le problème qu'il y a, c'est l'amour ou notre relation face à l'argent qui devient un problème. Donc, on a ce problème-là qui surgit dans notre vie, en fait, cette conception-là vient dérégler nos relations face à l'argent, nos relations face aux autres, à cause de notre relation face à l'argent. Vous pouvez comprendre que c'est une espèce d'effet domino. Si c'est tordu par rapport à comment on voit les gens, comment on voit l'argent, comment on voit Dieu, comment on voit le travail, donc tout ce qui se passe est distorsionné. Et c'est pour ça que Jésus dit, le problème de l'humain, c'est son cœur. C'est parce que c'est brisé. Et donc, tout ce qui va, qui le touche, est déréglé, distorsionné, et dans le vrai sens, est perverti. Ça a été déréglé. Et à partir de ce moment-là, toutes nos relations, et incluant l'argent, richesse, mais la relation par rapport à la générosité est tordue. Donc, ce concept-là, vous l'avez expérimenté, je l'ai expérimenté, c'est la réalité. La deuxième partie du verset 10 dit ceci. Ça dit, certains ont eu une telle envie d'en posséder qu'ils se sont égarés loin de la foi et se sont infligés bien des tourments. En fait, il est en train de dire, ils s'en ont éloigné de Dieu à cause de ce sujet-là, à cause de leur relation face aux richesses et l'argent. Et peut-être que t'as ce sentiment-là de tourment aussi, ou tu sais, souvent, ça, infliger des tourments ou s'égarer, on s'en rend pas compte tranquillement, mais ça nous éloigne de la foi et ultimement de Dieu. Mais c'est quelque chose qui est subtil, parce que c'est quelque chose qui est relationnel, donc difficilement quantifiable. Et c'est ça qui est souvent difficile à vivre, c'est que nos relations sont toujours quelque chose qu'on essaie de mesurer. Ben, avec cette personne-là, ça va bien, avec elle, ça va moins bien. Ouais, mais c'est basé sur quelles règles? Sur quoi tu mesures ça? Et quand on fait par rapport à l'argent ou les richesses, c'est la même affaire. Par à quoi? Par rapport à quoi tu le mesures? Là, on se dit, ben, moi, ma relation par rapport à l'argent est saine, j'ai de l'argent. Non. Ça veut pas dire. Et c'est pas parce que t'as pas d'argent que t'as une mauvaise relation avec l'argent. Et c'est ça qui est tordu. Parce qu'on se dit, ben, si ma relation avec l'argent allait bien, j'aurais de l'argent. Je serais riche. Et vu que j'en ai pas, j'ai une mauvaise relation avec l'argent, l'argent m'aime pas. L'argent veut pas rester avec moi. Comme je disais quand j'étais jeune, elle fond dans mes poches. L'argent me fond dans les mains. Et le texte dit, ils s'en ont venu à s'éloigner de Dieu à cause de ce sujet-là. Peut-être qu'on a ce sens-là de certaines décisions financières qu'on peut avoir prises, d'autres que tu subis à cause de circonstances qui t'ont mené là. Mais vous savez, moi, je cherche toujours à prendre la Bible puis la rendre compréhensible, applicable dans le quotidien. Puis dans cette série-là, c'est ce que je veux faire, c'est vous donner un espoir de comprendre et de pouvoir restaurer cette relation-là dans votre vie. Parce que, et le prochain texte que je vais vous lire, c'est le texte que je vais utiliser plusieurs reprises dans cette série-là, parce que il va révéler plusieurs choses par rapport à notre vie. Alors, regardez bien le texte que Jésus a mentionné. Dans Luc, au 2e chapitre, verset 34, Jésus a dit, « Car votre cœur sera toujours là où sont vos richesses. » Votre cœur sera toujours là où sont vos richesses. Là où est ton cœur, là est ton trésor. Et ce qui est intéressant, puis c'est, je vais en parler plus dans le prochain message, vous manquez pas ça, je vais être visuel. Vous allez voir, je vais illustrer de façon assez visuelle, mais juste vous compreniez que, tu sais, souvent, exemple, le dimanche, on vient ou dans les moments où on lit notre Bible, où on prie, peu importe, puis on fait comme, « Ah oui, mon cœur est à Dieu », on peut chanter des merveilleux chants, puis dire, « Ah, je t'aime, Seigneur, tu es tout pour moi, tu es tout ce dont j'ai besoin, Christ seul me suffit, bla 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 bla. » Et Jésus de répondre, « OK, si tu m'aimes, mets tes richesses dans cette direction-là. Là où est ton cœur, là est ton trésor. » J'ai trouvé un livre intéressant à travers ces recherches-là, un livre qui s'intitule « The Paradox of Generosity », fait par Christian Smith et Hillary Davidson. Et ces deux personnes-là sont des gens de l'Université de Notre-Dame, qui ont fait une étude, ce sont en sociologie, ça n'a rien à voir avec le christianisme. Ils ont fait une recherche académique sérieuse sur la générosité en 2014. Ils ont fait cette étude-là sur des milliers de personnes. Et voici quelques grands points très intéressants qui sortent de cette étude-là. Ils commencent en disant ceci, regardez bien ça. La générosité est paradoxale. Ceux qui donnent reçoivent à leur tour. En nous dépensant pour le bien-être des autres, nous améliorerons notre position. En abandonnant une partie de ce que nous possédons, nous nous dirigeons nous-mêmes vers l'épanouissement. Ce n'est pas seulement un enseignement philosophique ou religieux, c'est un fait sociologique. En prenant pas soin des autres, vous ne prenez pas correctement soin de vous-même. C'est assez fou, là. C'est pas financier, c'est sociologique, c'est humain, là. En ne prenant pas soin des autres, c'est de toi que tu prends pas soin. Parce que tu es interrelié avec les autres. Donc, en laissant les autres à eux-mêmes, ultimement, c'est toi que tu nuis. C'est à toi que tu nuis. Et eux autres, ils ont fait cette étude-là sur plus d'une année. C'est super intéressant. Puis ils disent que, tu sais, ils ont beaucoup de choses intéressantes dedans qui parlent de, pour être vrai à propos de la générosité, qui devrait résonner dans toute personne qui a cette compréhension de l'amour, de la charité ou de la générosité. Puis ils disent, en mesurant les effets de la générosité sur le bonheur, la santé corporelle, le but de la vie, la prévention de la dépression et l'intérêt pour la croissance personnelle, le résultat est global et positif. Être plus généreux, c'est tout simplement mieux pour vous par n'importe quelle mesure. En fait, c'est juste mieux pour ta vie. Tu vas juste être plus heureux, plus joyeux. Ça va être plus simple, ta vie. Et ils vont dire ceci, mais ce ne sont pas simplement les actes généreux qui importent. Et ça, c'est souvent là où on s'arrête. On fait des gestes généreux. Et mes autres, ils disent, ce sont des pratiques généreuses. C'est totalement différent. On ne récolte pas les bénéfices de l'action généreuse occasionnelle. Ce sont plutôt les modes de vie généreux qui affichent le meilleur rendement. C'est-à-dire, ce sont pas des gens qui ont été généreux parcimonie ici et là, juste comme ça. Ah, ben, on était généreux. C'est les gens qui vivent un style de vie généreux, qui bénéficient ou qui ont plus bénéficié de la générosité. Et il le constate que le motif peut pas être le retour, c'est-à-dire c'est pas parce que je veux avoir. Il dit ceci, la générosité, regardez bien ça, prochain point. La générosité ne peut pas être truquée pour atteindre une autre fin plus valorisée et égoïste. La générosité elle-même doit être souhaitée. Le bien des autres doit être ce que nous voulons. C'est-à-dire, tu peux pas dire « je vais être généreux parce que je vais obtenir ». Ça fonctionne pas. Tu peux pas tricher ça. Et ce qui est intéressant là-dedans, puis je vous le dis, c'est sociologique, académique, c'est universitaire, ça n'a rien à voir avec la Bible. Sauf qu'on réalise une chose, c'est que ça fait longtemps que la Bible mentionne exactement ça. La Bible va dans cette direction-là, dit, mais oui, mais les uns les autres, occupez-vous des uns des autres, soyez là les uns pour les autres, soyez généreux, ton frère dans le besoin, là ouais, aide-les. La Bible, c'est pas quelque chose qui vient d'être inventé. Mais tout à coup, on fait une étude, on fait comme, oh my God, on vient de se rendre compte que la générosité, c'est extraordinaire. Non, mais c'est vrai. On pense de cette façon-là, puis les autres, ils disent, bon, on peut pas juste prendre des actes de générosité puis se dire, ah, ben ça va me rapporter. C'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est ta vie. Et moi, ce que je trouve intéressant dans ça, c'est qu'en fait, c'est ce que Jésus a dit. Tu peux pas faker d'être un disciple de Jésus. Tu l'es, il y a un effet dans ta vie, et automatiquement, il y a un effet dans la vie des autres. C'est ça qui se passe. Donc, cet effet-là que tu reçois parce que tu dis, ben moi, j'ai reçu, Jésus dit, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. L'amour que vous avez, donnez-la. Partagez cette bonne nouvelle-là. Donc, c'est quand on réalise que, ouais, mais en fait, ce que Jésus dans la fait, c'est donne aux autres, passe, au suivant, donne, ah ouais, go. Passe, et c'est comme si Dieu disait, plus tu en donnes, plus je t'en donne. C'est exactement comme ça que Dieu fonctionne. Ce qui est spécial, c'est qu'au niveau universitaire sociologique, on vient de faire une étude pour dire, hey, savez-vous quoi? Sans arriver avec aucun passage biblique, là, ils arrivent à peu près, les mots changent, mais c'est la même affaire. C'est le même point. Leur étude est une évidence solide de la réalité socio-scientifique du principe biblique, celui de donner ou d'être généreux. Maintenant, ça a sorti, évidemment, il y a du monde qui a fait comme, qu'est-ce que c'est ça, cette histoire-là, des affaires de chrétiens encore? Parce qu'évidemment, ils ont interviewé plein de monde là-dedans, il y avait des chrétiens aussi, puis ils parlaient comment ils donnaient leur dîme, puis l'implication, en tout cas, bref, tout ça. Et il y a un prof d'une autre université, de l'université de Duke, en fait, il y a plusieurs universités qui ont douté des résultats, puis se sont dit, ben voyons, comme nous autres, je vous dis ça, vous faites comme, ah ouais. Mais là, il y a d'autres professeurs de d'autres universités qui ont dit, on va regarder ça comme faux. Ils ont fait des études, eux autres aussi. Ils sont allés fouiller. Et Karen Ely de Duke University a dit, regardez bien ce qu'il a écrit à propos du livre et de l'étude. Lui, il était pas trop chaud au début. Il dit, le livre traite en fait de deux paradoxes distincts. Le premier paradoxe de la générosité est qu'elle est bonne pour ceux qui la pratiquent. Plus vous en donnez, mieux vous vous portez. La seconde est que malgré ses avantages, relativement peu de gens sont particulièrement généreux. Lui, comme, ben voyons, c'est paradoxal, ça. Il réalise à quel point c'est bénéfique, mais pas grand monde veut le pratiquer. Et là, il va dire un petit peu plus loin dans le rapport que lui fait, il dit, ce livre présente de nouvelles données utiles sur les avantages de vivre généreusement. Le livre suggère également que les Américains, dans leur ensemble, ont beaucoup de marge d'amélioration en ce qui concerne les comportements. Comme le note Smith et Davidson, la pratique étonnamment restreinte de la générosité financière a de réelles conséquences. Et là, il va dire, si les 10% les plus généreux des Américains, les plus généreux, cessaient de donner de l'argent, tout le secteur de la société et de l'économie basé sur des dons financiers volontaires s'effondrerait simplement, écrivent-ils. Augmenter le nombre de personnes qui mènent une vie généreuse, en bref, bénéficiera probablement non seulement à ces personnes, mais aussi aux organisations qui dépendent de leur bonne volonté. Moi, je trouve ça fou de réaliser que le monde universitaire et académique s'est mis à mesurer un paquet d'affaires par rapport à ça. Mais comment la Bible le dit depuis longtemps? En fait, moi, je lis ça, puis ça me pointe exactement dans la Bible. Je dis, ben, regarde, c'est ça que ça dit. Alors, regardez bien le passage que je voulais dans Agé. Je vais pas vous laisser tourner, je vais aller plus vite à l'écran. Agé, premier chapitre, le verset 5-7, petit prophète dans l'Ancien Testament, qui dit ceci. Regardez bien, je vous le demande, moi, le Seigneur de l'univers, réfléchissez à ce qui vous arrive. Vous avez beaucoup semé, mais votre récolte est très faible. Vous n'avez pas suffisamment à manger pour bien vous nourrir, pas suffisamment à boire pour vous rendre gai. Vous n'avez pas assez de vêtements pour vous tenir chaud. Et regardez bien ça, le salaire du travailleur s'épuise aussi vite qu'une bourse percée. Je vous le répète, moi, le Seigneur de l'univers, réfléchissez à ce qui vous arrive. En fait, il t'en dit, réfléchis comme faut à ce que tu fais par rapport à ta relation avec l'argent. Peut-être que vous venez de lire ce verset-là, j'ai trouvé, c'est mon verset de vie, ça, hein? La bourse percée qui s'épuise rapidement, c'est moi, ça, c'est ma vie, ça, c'est comme ça que ça se passe. Et là, vous avez trouvé, ça y est, voici les principes qui vont m'aider. Mais je veux que vous compreniez, c'est qu'il y a aucun chiffre dans ça. C'est au-delà des chiffres. C'est pas une question de montant. C'est une question de comportement et d'attitude. Ce qui change tout. Et c'est pour ça que Dieu dit, réfléchissez bien à ce qui vous arrive. Analyse ce qui est en train d'arriver, là. Et je parle pas juste d'argent, mais de tous les domaines de notre vie. Dans 1 Corinthiens, au 1er chapitre, le verset 20 dit, alors que peuvent encore dire les sages, ou les gens instruits, ou les discoureurs du temps présent? Dieu a démontré que la sagesse de ce monde est folie. En fait, ce que Dieu est en train de dire, c'est les principes que vous pensez logiques, qui ont du sens dans le monde dans lequel vous vivez, n'ont pas de sens pour moi. Dieu dit, moi, ma façon de faire est au-dessus de la façon dont vous concevez les choses. Peu importe comment intelligent vous êtes, mais ma façon de voir et de faire les choses est au-delà de ça. Maintenant, toute cette réalité-là, c'est que Dieu est en train de dire, regardez-là, je veux vous compreniez. Il vous arrive ça, il vous arrive ça, il vous arrive ça. Là, vous réfléchissez, vous emmenez toute la plus belle sagesse, la plus belle intelligence du monde, mais vous vivez encore des problèmes. Et là, Dieu est en train de dire, ma façon à moi est au-dessus de ça. Et quand vous allez comprendre, vous allez adopter ou vivre la façon dont je vous le montre, vous allez vivre les conséquences ou les bénéfices de ce que je vous dis. Donc, dans cet aspect-là ou dans cette mentalité-là, je me suis dit, OK, je vais vous emmener 5 principes rapides, 5 grandes lignes sur lesquelles on peut voir comment la parole de Dieu nous aide avec le devoir au-delà des chiffres. Le premier point par rapport à ça, c'est celui-ci. C'est l'appel versus la compensation. L'appel versus la compensation. Peu importe le montant d'argent que tu fais, juste vous sachiez, ça ne vous satisfera jamais. Ça sera jamais. Il n'y aura jamais un montant que vous allez dire, c'est assez. Ça n'arrivera pas, ça. Il n'y aura jamais ce montant-là de dire, OK, mon compte est trop plein. Ça n'arrive pas, ça. Vous pouvez demander aux gens les plus riches de la terre, ils font pas, OK, là, j'en ai assez. Non, j'arrête, là. Arrêtez de me donner de l'argent. Non, ça se peut pas. Parce que l'être humain n'a jamais assez. Il est jamais satisfait. Ce qui satisfait réellement, c'est de réaliser quel est le but pour lequel Dieu t'a appelé et de l'accomplir. Ça satisfait. C'est l'appel versus la compensation. Poursuis pas combien tu peux faire. Poursuis l'appel que Dieu a pour toi. Poursuis le plan que Dieu a dans ta vie. Le secret pour ta vie est de savoir pourquoi tu es sur cette terre et de l'accomplir. Ça apporte la satisfaction. L'appel au-delà de ce que je gagne. Actes au 20e chapitre, le verset 24 dit ceci. Mais ma propre vie ne compte pas à mes yeux. Ce qui m'importe, c'est d'aller jusqu'au bout de ma mission et d'achever la tâche que m'a confiée le Seigneur Jésus. C'est ça que Paul dit. Et là, vous dites, ben ouais, c'est sûr, mais ça, c'est Paul. Non, mais toi aussi, t'as un but. Toi aussi, il y a un objectif. Toi aussi, il y a une raison pourquoi Dieu t'a placé là. Et c'est d'accomplir et de chercher. En fait, chercher et accomplir ça. La poursuite du plan que Dieu a pour ta vie. Ça, c'est l'accomplissement et la satisfaction. Et ce qui nous amène au deuxième point. Qui dit le contentement versus le consumérisme. Là, aujourd'hui, là, oui, je suis allé dans le dictionnaire. Oui, je suis allé dans le dictionnaire. Là, ceux qui utilisent le YouVersion avec toutes les notes vont être tellement contents aujourd'hui de voir toutes les notes que j'ai. Dire, all right, j'ai pas besoin de t'écrire ça. Mais le contentement versus le consumérisme. Là, vous dites consumérisme. Consumer, c'est quoi? Ça n'a pas de sens, ça. Le consumérisme, c'est quoi? Regardez bien. Le consumérisme, il s'agit d'un mode de consommation individualiste, dépendant du marché, quantitativement insatiable, c'est-à-dire pas capable de le satisfaire, envahissant, hédoniste, toujours pour les plaisirs, axé sur la nouveauté, faisant usage des signes autant que des choses. On vit dans cette société-là qui veut toujours plus et qui veut toujours maintenant. Je le veux right now. Quand j'étais plus jeune, est-ce qu'il y en a qui se souviennent des plans mis de côté? Non, souvenez-vous de ça? Moi, quand j'étais très jeune, mettons, j'avais comme dans les 8-9 ans, là, puis je voyais ça dans les magasins, il y avait toujours « Demandez-nous notre plan mis de côté. » Moi, j'étais un petit peu naïf dans la vie. Fait que moi, je me disais, ils veulent qu'on garde le plan de la business. Fait que je me disais, ben, je suis pas pour rentrer et demander c'est quoi le plan de la bâtisse, c'est quoi le plan de votre business. Moi, je savais pas que c'était un plan mis de côté. Moi, je pensais que c'était le plan qui était mis de côté. C'est une autre histoire. Mais vous me suivez? Pas grave. C'est, moi, je comprenais ça de même. Le plan, il est mis de côté. Mais ben, peux-tu le voir, le plan que vous avez mis de côté? Mais, en fait, à l'époque, on avait ça. Tu disais, hey, je vais acheter cette laveuse-là. Elle coûte 800$. J'ai 200$. Je te mets 200$ dessus. Garde-moi là de côté. Puis je vais venir te payer. Puis quand je l'aurai payé au complet, je l'amène chez nous. Ça existe encore. Ça s'appelle les cartes de crédit. Non, mais vous comprenez, c'est qu'à ce temps, c'est plus comme ça qu'on fonctionne. Je le veux là. J'ai même pas encore payé la taxe dessus qui est rendue chez nous. Puis, quand il est fini de payer, j'en veux plus. C'est ça qui arrive. Consumérisme. On est comme ça parce qu'on a perdu la valeur du contentement. On a perdu la valeur du... On fait paraître... Tu sais, on pense au contentement. Quand je dis contentement, de se contenter. En fait, pour la plupart de notre société, on fait paraître le contentement comme quelque chose de plate, archaïque et sans ambition. Voyons donc, on est pour, tu veux plus que ça, arrête donc, tu peux pas te contenter de ça, arrête-moi ça. Mais vous savez quoi? La paix est là, dans le contentement. Luc, au 12e chapitre, le verset 15, dans la version Parole de vie, ça dit ceci. Jésus dit à tout le monde, attention, ne cherchez pas à avoir toujours plus de choses. En effet, la vie de quelqu'un ne dépend pas de ce qu'il possède, même s'il est très riche. Wow! Peut-être que vous dites, oh, pff, je crois pas vraiment à ça, moi, cette histoire-là. Non, ça se peut. Hey, il raconte ses histoires, mais une fuse de sautant quelque part, là. Le contentement, voyons donc, pas dans le monde dans lequel on vit, ça n'a pas de bon sens. Jésus qui dit ça, voyons. Ne cherchez pas à avoir toujours plus de choses. Et Jésus dit cette phrase-là, en effet, la vie de quelqu'un ne dépend pas de ce qu'il possède, même s'il est très riche. Souvent, là, on a ces discussions-là, puis je le dis pas de manière jugement ou condescendante, rien, ça même pas rapport avec ça. Mais on a souvent des discussions puis on se dit ben puis on embarque tout là-dedans. On veut toujours l'autre affaire. Ah, nouveau téléphone, nouvelle ordi, nouvelle voiture, nouvelle patente, nouvelle télé, ben peu importe. Nouvelle affaire. On veut cette nouvelle chose là. L'attrait du nouveau. Parce que ben ce qu'on a c'est vieux, hein. Ça peut avoir deux semaines. C'est l'ancien. Ils ont sorti le nouveau. Et juste, je le sais que vous allez voir que c'est tordu, mon idée, mais je veux juste vous compreniez ce que je veux dire. Vous allez le voir dans la manière aussi dont plusieurs compagnies vont gérer les mises à jour. On fait des mises à jour d'applications, de téléphones, et à un moment donné, ah non, votre téléphone ne peut plus supporter les nouvelles affaires. Il faut que tu changes le téléphone parce que ben il est plus assez bon. Ben le problème avec ça je parle pas des compagnies, c'est pas ça mon point. C'est juste vous compreniez, c'est ça que je vous dis, juste compreniez l'idée que c'est une mentalité société. De oh mais c'est plus bon. Hey, ça fait 3 semaines que je l'ai fini ça. Hey, c'est pas du pain que tu viens d'acheter là. Comprenez? Je comprendrais. Moi, là, j'en veux pas d'autres. J'ai eu des légumes dans ma vie, c'est fini. J'en veux plus. Non, mais tu sais, c'est comme, OK, avoir toujours plus de choses. J'en veux plus des concombres. J'en ai eu assez des concombres. Non, c'est pas ça le point. L'idée, c'est pas ça. C'est pour ça que je vous dis, c'est que souvent, quand on réfléchit à ça, on réfléchit de manière très physique ou très linéaire. On pense pas à l'ensemble de ce que ça apporte. On réfléchit pas plus loin. Puis quand Jésus dit, en effet, la vie de quelqu'un dépend pas de ce qu'il possède, malheureusement, on a l'impression que nos vies dépendent de ce qu'on possède. Il n'y a pas d'argent, ma vie est finie. Vrai ou faux? Il n'y a pas d'emploi, plus de vie. Pas de char, peut pas aller nulle part, plus de vie. Pas de gaz, peut pas aller nulle part, pas de vie. Pas d'argent, pas payer Internet, plus de vie. Non, mais comprenez ce que je veux dire. C'est qu'on se rend pas comme ça, juste faire aller plus loin. Comment on réalise pas que tout ce que l'on a ou on possède, souvent on fait que notre vie dépend ou notre vie, notre valeur vaut par rapport à ça. Mais Jésus a toujours défait ce stéréotype-là, a toujours défait cette pensée-là. Et là, tu sais, on lit ça puis tu me dis, ah, je crois pas vraiment ça. Moi, je vais vous mettre au défi. Je vous mets au défi, on monte un voyage missionnaire quelque part. On s'en va dans un voyage missionnaire. On va aller voir du monde qui ont rien. On va voir si la vie dépend des richesses de ce qu'on possède. Puis, je vous dis, vous voyez des gens, tu vas voir des gens qui ont tellement moins que toi, mais qui sont probablement bien mal plus heureux que toi. C'est une valeur biblique, le contentement. Alors, regardez comment Paul le formule dans Philippiens au 4e chapitre, le verset 12. Paul le dit ceci, « Je sais vivre dans la pauvreté aussi bien que dans l'abondance. » Là est le secret, il dit. « J'ai appris à être satisfait. » Ou « J'ai appris à être content, à être contenté. » »« J'ai appris à en avoir assez, partout et en toutes circonstances, que j'ai de quoi me nourrir ou que j'ai faim, que je sois dans l'abondance ou dans le besoin. » Paul est en train de dire « J'ai appris. » Ça, là, on lit vite quand vous lisez le texte. Mais le mot qui est là, il peut avoir duré des années, cette phrase-là. Combien de temps ça vous a appris, vous avez pris pour apprendre quelque chose dans votre vie? Peut-être que vous l'avez toujours pas appris non plus. Parce que ça peut être long, apprendre. Parce que des fois, on fait une erreur, puis ça prend du temps, des fois, à ce que ça rentre. Hein? J'ai appris. C'était ma fête cette semaine. Je manque. J'ai de l'air plus vieux, hein? Non, j'ai eu 47 ans. 47. Pouvez-vous imaginer? 47. Quand j'étais adolescent, je pensais que 35, ta vie était finie. Hey, riez de moi, vous pensiez la même affaire. Vous pensiez qu'avoir 35, 40 ans, c'était comme, il n'a plus de vie rendue là. Hey, j'aimerais ça l'avoir, le petit jeune de 15 ans. Moi, il a mal. Mais, ça, on dit, c'est rentré à 47 ans. Puis il y a des affaires qui m'ont pris 40, 45, 46, 47, 49, 50, 60 ans à prendre. Il y a des affaires que je ne sais pas encore. Ou je les ai juste pas appris comme faux. Mais il y a des affaires qui m'ont pris du temps à apprendre. Par erreur, plus souvent qu'autrement. Mais des fois par conseil des autres. Et parce que Dieu me dit. Et même quand Dieu nous le dit, il l'écrit, on fait comme « ouais ». Ouais. On est comme oui, mais nous on a le mais. Nous on fait comme Seigneur, t'as tellement raison, mais c'est parce que tu comprends pas. C'est ça, hein? C'est ça qu'on dit. Seigneur, je le sais ce que tu dis, mais tu comprends pas vraiment. Parce que si tu comprenais, tu dirais pas ça. Oui, il comprend justement. C'est parce que c'est toi qui n'as pas encore compris. T'as pas encore appris. Et Paul dit, j'ai appris à être satisfait. Le contentement, cette valeur-là, c'est de réaliser que tu es béni par Dieu. Que si Dieu, et je vous comprends, ça c'est quelque chose qui m'a fait réaliser il y a quelques années où je me suis dit, oh, mais Seigneur, si tu pouvais faire ça, tu sais, ah, oh, Seigneur, si tu pouvais seulement faire ça. Si tu pouvais juste, c'est juste ça. Ah, oh, Seigneur, si tu pouvais juste faire ça. C'est pas vrai. Parce que quand tu l'as eu, c'est plus juste ça. Il y a un autre juste ça. Et il y a quelque chose que j'ai réalisé, que si Dieu ne faisait rien d'autre pour moi, ce qu'il a fait est plus que suffisant. Il m'a tout donné, il m'a tout pardonné. C'est au-delà de ce que je pourrais continuer à demander. Et tu sais, on chante « Christ seul me suffit, tout ce dont j'ai besoin, c'est Christ ». Vraiment? Vraiment, tu penses-tu ce que tu dis? Tout ce dont j'ai besoin, Seigneur, c'est toi. Ouais, OK. Maintenant, ouais. Oh! Seigneur, tu comprends pas. Faudrait que tu comprennes ce qui se passe. Et je suis en arrivé à cette phrase-là. Voici, ça dit, le contentement, ce n'est pas l'accomplissement de tout ce que vous voulez, mais la réalisation de ce que vous avez déjà. C'est ça le contentement. C'est pas d'obtenir tout ce que je veux, mais de réaliser que ce que j'ai déjà est énorme. Ce que Dieu m'a déjà donné. Mais ça, c'est l'être humain. On veut plus. Encore. Même si Dieu répond à la prière tant attendue depuis, je sais pas, mettons que vous avez prié pendant 20 ans pour quelque chose. Puis que Dieu répond à la prière. Vous savez quoi? Vous allez encore, il dit, ouais, il me manque ça. Parce que il y a jamais assez, ça existe pas dans le cœur de l'être humain. Il veut toujours plus. Et ce que Dieu essaie de tourner, c'est de le tourner vers lui. Que le plus que tu désires, c'est moi que tu désires. Et c'est là qu'arrive toute cette réalisation-là du contentement. C'est une attitude de reconnaissance et de remerciement envers Dieu. Dis, Seigneur, peu importe ce qui m'arrive, merci de tout ce que tu as fait pour moi dans ma vie. C'est extraordinaire ce que tu as fait. Puis quand j'en arrivais avec cette phrase-là, à réussir à maintenant à formuler cette phrase-là, je me suis dit, c'est fou pareil, parce que c'est comme si je me disais, OK, oui, humainement, je veux plus. Ben oui, on est tous pareils. Mais je réalisais quelque chose, je me disais, mais si Dieu n'agréait plus aucune requête de prière, tu sais, comme, peu importe, là, est-ce que je serais reconnaissant de ce que Dieu a fait dans ma vie? Ou si je serais en mer parce qu'il me fait pas ce que je veux. Je veux obtenir. Et en quelque part, il y a sans le dire, là, c'est inconscient, il y a une espèce de « je veux et j'exige ». Tu me dois ça, Dieu. Tu me dois le bonheur. Tu le dois de me rendre heureux. Tu le dois de répondre à ma prière. Tu le dois de guérir ma mère, mon père, ma sœur, ma mère, mon frère, ma femme, mes enfants, peu importe. Tu me dois de le guérir. Et quand on arrive avec cette pensée-là, on revient avec la pensée de consumérisme. Je veux, je veux. Je suis pas toi, je veux, Seigneur. C'est ce que tu me donnes. Et on en revient à vouloir utiliser Dieu pour nos fins. Et non pas d'aimer Dieu pour qui il est. En fait, c'est de dire, ben, si je peux plus presser le citron pour obtenir ce que je veux, j'en veux plus Dieu. Je suis avec toi pour ce que tu me donnes. Pensez-y, là. C'est une relation comme ça, là. Si vous voyez un ami qui est proche, un ami, là, dites, ah, il a commencé à fréquenter quelqu'un, oh, la personne est avec juste pour ce qu'elle y apporte. Vous diriez, hey, attends une minute, là, ça n'a pas de sens, là. Il abuse, il profite. Ouais, mais on le réalise pas, mais on se comporte souvent comme ça envers Dieu. Nous voulons obtenir des choses et Dieu devrait répondre selon nos désirs, nos besoins. À la manière qu'on l'a demandé, d'ailleurs. Juste bien cuit. Pas trop. La façon que nous, on le voudrait l'apprêter. Puis s'il le fait pas, pourquoi Dieu est méchant? Pourquoi Dieu me laisse souffrir comme ça? Parce que on est devenu comme ça. Et ça m'amène à mon troisième point, qui veut être le versus le dépendant de Dieu versus indépendant. Demeurer toujours dépendant de Dieu, peu importe dans quelle saison tu te trouves dans ta vie. Que ça soit dans la richesse ou dans l'abondance, de chercher à dépendre de Dieu en toutes circonstances. On pense tout de suite que quand ça va mal pour dépendre de Dieu. Oh, je dois dépendre de Dieu. C'est juste quand ça va mal. Quand ça va bien, c'est pas super. Vous savez, c'est encore plus dur dépendre de Dieu quand ça va bien. C'est encore plus difficile parce qu'on en vient à croire qu'on n'en a pas besoin. Que je suis autosuffisant, que je suis capable. J'ai ce qu'il faut en moi. Je vais y arriver. Oh, on devient indépendant. On pense dans cette direction-là. On pense en termes de sécurité financière. Mais je vous encourage à ne jamais penser que l'argent peut vous apporter ou donner la sécurité. Proverbe 18, verset 11. Dans la version Colombe dit ceci. La fortune du riche est une ville forte. Dans son imagination, c'est une muraille qui est hors d'atteinte. Dans sa tête, là. Il se dit, moi, personne ne va m'atteindre. n'ai pas de problème, ils vont venir me rejoindre jusqu'ici. Il s'imagine qu'aucun problème peut franchir le mur de sa sécurité financière. Oh! Ça se peut que tu sois surpris. Tu peux te faire surprendre. Mais la Bible dit, mais dans son imagination, tu as besoin de Dieu pour ta sécurité. Et vous savez la statistique sur qui sont les personnes les plus généreuses en Amérique du Nord sont? Les pauvres! Complètement hallucinant. Probablement parce que eux, ils savent que leur argent peut rien faire pour eux autres. Parce que quelqu'un prend l'air, ça me donne rien, et ouais. Je peux rien faire avec ça. Peut-être que c'est ce qu'ils se disent. Ah non, je veux que je fasse avec ça. Allez. Peut-être que c'est ça. Le pourcentage est plus que tu es pauvre, plus tu es généreux. Proverbe 30e chapitre, le verset 8 et 9 dit, et c'est fou, c'est Agar qui a écrit ça. Il dit, ne me laisse pas devenir trop pauvre ou trop riche. Donne-moi juste ce dont j'ai besoin pour vivre. Si je possède trop, je risque de trahir en disant, à quoi le Seigneur sert-il? Et si j'ai trop peu, je risque de voler et de déshonorer ainsi mon Dieu. Vous savez ce qui est fou, c'est que le « donne-moi juste ce dont j'ai besoin pour vivre », c'est exactement la même phrase que Jésus a répétée dans la prière du Notre Père, « donne-nous aujourd'hui notre pain qu'on a besoin ». C'est exactement ça. « Donne-moi ce que j'ai besoin ». Pas trop. Pas trop peu. Dans les deux cas, c'est parce que je veux pas me mettre à voler puis déshonorer Dieu. Puis je veux pas être tellement dans une situation où j'ai de l'argent qu'on voyait tantôt dans Timothée qui nous éloigne de Dieu ou de la foi. Ça fait partie de ce que Jésus a mis dans notre Père pour vrai. C'est comme, hey gang, pas ta confiance dans tes richesses, mais en Dieu, c'est lui ta sécurité. Quatrième, c'est intendant versus propriétaire. Intendant versus propriétaire. Intendant, c'est un gérant. C'est quelqu'un qui gère les affaires de quelqu'un d'autre, mais ça y appartient pas. Tu fais grandir le royaume de Dieu et non le tien. Dieu possède tout. T'es son gérant, tu es son intendant. Ça aide beaucoup quand tu commences à comprendre ça. Qu'en réalité, ça t'appartient pas. C'est au patron. Et qu'il te prête pour que tu fasses des bénéfices pour les autres, pas le tien. En fait, il faut que tu comprennes que tu agis pour Dieu, non pas pour toi. Alléluia. Le propriétaire, je vais en parler dans le prochain message, mais on va essayer de voir quelque chose qui va te surprendre. Je pense que vous allez être surpris. De comprendre beaucoup de mystères par rapport à Dieu quand on comprend le principe de propriété. Mais je vais en parler la semaine prochaine. Mais dans Matthieu, au 6e chapitre, le verset 19 et 20, il dit ceci. Et c'est Jésus qui parle. « Ne vous amassez pas des richesses dans ce monde. » Si on s'arrêtait là, en fait, puis je veux que vous compreniez, Jésus ne dit pas « Soyez tous pauvres et sur la paille ». Ce n'est pas ça qu'il dit. Il s'en va même pas dans cette direction-là. Mais souvent, on peut avoir l'impression que c'est faire vœu de pauvreté. Jamais il y a vœu de pauvreté dans la Bible. Maintenant, il va dire « Où les vers et la rouille détruisent, où les cambrioleurs forcent les serrures pour voler, amassez-vous plutôt des richesses dans le ciel où il n'y a ni vers, ni rouille pour détruire, ni cambrioleurs pour forcer les serrures et voler. » Tu sais, comme souvent je l'ai dit, puis je le pense, vous ne pouvez rien apporter au ciel. Rien. Mais je vais vous dire quelque chose qui est assez hallucinant. Vous pouvez en envoyer beaucoup d'avance, par exemple. Vous pouvez investir pour envoyer bien du monde là. Vous pouvez envoyer beaucoup de vie au ciel en investissant dans le royaume de Dieu. Vous, là, vous, quand tu pars, tu n'emmènes rien. D'arriver ici tout nu, tu pars tout nu. C'est pareil. C'est comme ça. Tu peux rien apporter. Mais quelle belle image que Jésus donne du royaume des cieux. Regardez bien ça, Matthieu 13, 44. Le royaume des cieux ressemble à un trésor caché dans un champ. Un homme découvre ce trésor et le cache de nouveau. Et il est si heureux qu'il va vendre tout ce qu'il possède et revient acheter ce champ. Quand tu prends conscience de ce qui est réellement important, tu veux faire les choses pour pouvoir avoir le plus grand impact possible avec ce que tu as. Juste inviter Nico, on va terminer. C'est juste de comprendre cette réalité-là, que lorsque tu comprends le rôle ou ce que Dieu t'a donné, la valeur de ce qu'il t'a confié et quel impact tu peux avoir avec ça, quand tu le saisis, c'est plus une culpabilité. Ça, je veux dire, vous allez sentir beaucoup plus libre. C'est pas une culpabilité de dire, t'es non mais pas généreux. C'est pas ça. Ça n'a rien à voir avec ça. Parce que la réalité, il faut comprendre une chose, c'est que tous les êtres humains sont dans le même bateau. Jésus dit, tous sont perdus. Tous sont pécheurs. Tous sont loin de Dieu. Tout le monde. Il n'y a pas un qui est meilleur qu'un autre. Et ce que Jésus essaie de nous amener à comprendre, c'est quand on va rétablir la relation avec Dieu, Dieu va commencer à réaliser, à restaurer les relations dans ce qui se passe dans ta vie. Et c'est-à-dire, relation par rapport à humaine, relation par rapport au travail, par rapport à l'argent, par rapport à comment tu vois le plan qu'il y a pour ta vie. Dieu va restaurer ces choses-là. Mais c'est nourri par la relation que tu as avec lui. Et c'est pour ça que Jésus dit dans Jean 15, sans moi, vous pouvez rien faire. Vous avez besoin de moi dans votre vie parce que sinon, il n'y a pas de vie. Et donc, la restauration ne peut pas prendre place. Parce que l'arbre qui est coupé du tronc, la branche, elle peut pas être restaurée. Elle peut pas être régénérée. Mais tant que tu es après le tronc, hop, la vie peut revenir dedans. Et c'est ça que Jésus fait. Il restaure nos relations. Il rebâtit ce qui est brisé. Il rebâtit les ruines. Et ça en arrive au dernier point, le cinquième. Générosité versus avarice. Avare. J'avais failli dire, gratine. Les gens avares sont souvent les plus misérables aussi. C'est à l'inverse, les personnes les plus généreuses sont souvent les personnes les plus heureuses. Dans Actes, comme j'ai dit tantôt, 20, 35, dit « Je vous ai montré en tout ce qu'il faut travailler ainsi pour venir en aide aux pauvres. » Et regardez ça, en nous souvenant des mots que le Seigneur Jésus lui-même a dit, « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. » Ce qui est fou, c'est que le mot « bonheur » en grec, c'est « heureux ». Jésus t'aurait dit, t'es bien plus heureux quand tu donnes. T'as bien plus de fun quand tu donnes. Ah, on aime tous recevoir, mais c'est éphémère. C'est tellement éphémère. C'est comment, merci. Mais donner un plaisir continuel. Et je vais vous donner un exemple de ça. Je vous ai parlé au début du livre de l'étude par rapport à la générosité. Et je pensais à toute cette étude-là qui a été faite et comment ça apportait du bonheur. Je me disais, Jésus a dit, mais vous allez tellement plus être heureux en donnant qu'en recevant. Et là, je me suis dit, OK, comment est-ce qu'on pourrait avoir du bonheur instantané maintenant? On veut du bonheur, on veut être heureux là. Tout de suite, facile, donne à quelqu'un. Regardez bien ça. Je vais vous dire, essayez ça. Aujourd'hui, si vous allez, mettons, vous en allez prendre, là, vous sortez d'ici, là, vous en allez une commande à l'auto, mettons. Ah, on va se prendre un bon café, on va se prendre des affaires. Quand vous allez arriver à la fenêtre, là, prenez donc la facture de la personne en arrière. Vous savez, comment qu'il... Donne-moi la facture, je vais le payer. Payez sa facture, ça va coûter 8 piastres, 10 piastres, 20 piastres, OK. Vous partez, là, regardez dans votre miroir. Vous venez de faire la journée de la personne en arrière. La personne va faire... Ben, il y a quelqu'un qui a déjà payé pour vous. Ben, voyons donc. C'est qui, ça? Ça n'a pas de sens, ça. Et tout à coup, il y a comme une joie que la personne a en elle. Il y a des personnes qui démontrent de l'amour. Aimer. Prendre soin des autres. Tu vas avoir tellement de joie et de bonheur, tu vas partir, tu vas dire, qui va être tellement heureux? Tu vas voir, il y a une joie qui s'installe, il y a un bonheur qui est là. En fait, tu fais comme, j'ai rien, mais je suis tellement content. J'ai payé pour une facture que j'ai pas. J'ai pas le matériel, mais c'est tellement cool, c'est l'autre qui l'a. Essayez ça, essayez-le au resto sinon. Tu sais, il y a une facture là-bas, là. Donnez-moi la facture, je vais la prendre. C'est qui les autres? Je sais pas grave. Dis pas c'est qui, dis que c'est payé. Vous allez vivre un moment comme jamais. Vous allez vivre un bonheur puis une joie comme Jésus a dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. c'est en fait, c'est, vous savez que c'est la phrase préférée de tous les boxeurs, hein? Vous savez, votre 3, 4, 8 piastres, 10 piastres, 20 piastres va changer la journée d'une personne. Et la celle qui est en arrière de vous aussi. Vous savez, la valeur de ma vie n'est pas déterminée par ce que j'obtiens ou ce que j'accumule, mais par combien je donne de ma vie. Je vais terminer avec un texte. Et je vais vous inviter à vous lever. On va terminer avec ce texte-là qui s'adresse à moi principalement, vous allez comprendre, parce que c'est écrit à un épître pastoral. Les livres dans le Nouveau Testament, les épîtres pastorales qu'on appelle, qui est écrit au pasteur en particulier, qui est écrit à un gars qui s'appelle Timothée. Tim, c'est un pasteur. Et voici ce que Paul va dire à Tim. À Timothée, au 6e chapitre, versets 18 et 19. Il va dire, « Vous, pasteur, recommandez-leur de faire le bien, d'être riche en actions bonnes, d'être généreux et prêts à partager avec autrui, qu'ils s'amassent ainsi un bon et solide trésor pour l'avenir afin d'obtenir la vie réelle ou véritable. » Ça, c'est au-delà des chiffres. Dieu me demande de vous dire ça. Dieu me dit, recommande-leur de faire le bien, d'être riche en actions bonnes, d'être généreux avec les autres, de partager et de donner. Dieu me dit, je veux que tu leur dises ça. Le jour où vous arriverez devant Dieu, vous pourrez dire, ouais, il me l'a dit. Et moi, je pourrais dire, je leur ai dit. Mais Dieu a une manière différente de voir les choses. Et ses principes sont différents de ce monde dans lequel on vit. Et le Saint-Esprit nous amène à voir et à réaliser ça.
Merci d'avoir pris le temps de télécharger ce message. Pour de plus amples informations, vous pouvez consulter notre site Internet au www.eglisem.com. www.eglisem.com. Que Dieu vous guide et vous bénisse. Bonne semaine.